BW. Vue d'Allemagne.
En Allemagne, les femmes donnent naissance en moyenne à 1,35 enfants, un niveau historiquement bas. S'agit-il d'un signal d'alarme pour la prospérité ou d'un signe de l'émancipation des femmes? On en parle dans quelques instants. Juste après cela, on se rendra au Chili, où les Vénézuéliens, qui représentent l'une des premières et fortes communautés étrangères dans le pays, font face à un climat hostile. C'est le grand reportage de cette émission. Au micro, Relu Koubakin, Willkommen, bienvenue. Julia Brandner est une influenceuse et comédienne autrichienne qui vit à Berlin. Alors qu'elle présentait récemment son livre qui a été bien accueilli par le public, une femme de 72 ans, mère de 3 enfants, prend la parole, l'attaque en traitant l'auteur de 30 ans d'égoïste. Le livre comporte 240 pages. Son titre, I'm not kidding, warum ich keine Kinder brauche und dafür keine Entschuldigung brauche. Traduisé en français, je ne plaisante pas, pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants et pourquoi je n'ai pas besoin de m'en excuser. Alors qu'elle avait 28 ans, Julia Brandner s'est fait stériliser.
On est catalogué comme révolutionnaire. Quand on dit qu'on ne veut pas d'enfants, on est très vite accusé de saboter le système de retraite et le contrat intergénérationnel et d'être en fait responsable de l'extinction de l'humanité.
Les critiques à l'encontre de Julia Brandner s'enflamment autour d'un chiffre que beaucoup de jeunes femmes célèbrent comme un progrès en matière d'autodétermination, mais que d'autres redoutent comme le signe avant-coureur d'une baisse de la prospérité et d'une population en constante diminution. 1,35, c'est le nombre moyen d'enfants que les femmes en Allemagne ont mis au monde en 2024, selon l'Office fédéral des statistiques. Le taux de natalité des femmes allemandes n'est que de 1,23 contre 1,84 pour les femmes étrangères. En chiffre absolu, ce sont plus de 15 000 bébés de moins que l'année précédente. Pour revenir à Julia Brandner, son gynécologue avait exigé un rapport psychiatrique attestant de sa capacité mentale pour la stérilisation. La violence du débat autour de son livre a en tout cas surpris l'auteur. Elle observe un glissement vers la droite croissant en période d'instabilité, vers des valeurs plus traditionnelles où les femmes devraient à nouveau rester à la cuisine et s'occuper des enfants. Ainsi, le parti d'extrême droite AfD s'est également emparé du thème de la baisse du taux de natalité et réclame davantage de naissances plutôt que l'immigration comme moyen de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Julia Brandner regrette que même en 2025, la question des enfants soit encore presque entièrement laissée à la charge des femmes.
Les nombreuses mères célibataires sont laissées seules, tandis que les pères ne sont pas suffisamment mis à contribution. Avoir des enfants représente un risque énorme de pauvreté pour les femmes. Il est inacceptable qu'aujourd'hui encore, une femme doive sacrifier son bien-être pour assurer la prospérité de la société.
DW 1,35, le niveau le plus bas en Allemagne depuis 1994. Il était alors à 1,24. La baisse du taux de natalité en 2024 confirmait une tendance des dernières années, notamment en 2023 et en 2022. Il faut dire que l'Allemagne n'est pas seule. Ses voisins français, autrichiens et plus loin italiens, les pays nordiques, connaissent des baisses, tout comme le reste du monde. En Corée du Sud, le taux de natalité est même de 0,75, exception avec le continent africain avec en moyenne 3,95 enfants par femme. Dans une interview à la DW, la sociologue Michaela Krehenfeld constate un lien toujours plus fort entre les crises économiques, les incertitudes et le comportement en matière de natalité. Entre autres crises, la COVID-19, le changement climatique et l'inflation, une situation inédite pour la jeune génération. Martin Bouillard scrute depuis les 2 dernières décennies les chiffres sur le taux de natalité en Allemagne. Le directeur adjoint de l'Institut fédéral de recherche sur la population estime que le débat autour des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants passe à côté du véritable sujet.
Si quelqu'un ne souhaite pas avoir des enfants, c'est son choix. Cela ne devrait pas être stigmatisé. Mener une vie sans enfants est de plus en plus accepté. Mais le problème est ailleurs. Nous menons une enquête empirique sur le désir d'avoir des enfants et il en ressort qu'en 2024, le désir moyen sera d'environ 1,8 enfants par femme et par homme, soit nettement supérieur au taux de natalité de 1,35. Si ce désir d'avoir des enfants qui existe bel et bien se réalisait, nous aurions moins de problèmes démographiques et, à long terme, beaucoup plus de prospérité.
Selon les experts, il faut 2,1 enfants par femme pour maintenir la taille de la population stable en Europe. Certains parents, on vient de l'entendre, désirent avoir des enfants. Encore faut-il trouver des places dans les crèches auxquelles ont droit les parents en Allemagne depuis 2013. Les crèches font face à une insuffisance de personnel. De nombreuses familles pourraient donc finir par n'avoir qu'un enfant au lieu de deux qu'elles souhaitaient. Et parce que aussi les enfants sont de plus en plus souvent considérés comme un problème. D'après le ministère de la Famille, 22% des femmes et 36% des hommes entre 30 et 50 ans n'ont pas d'enfants en ce moment. La seule solution serait donc d'améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, indique Martin Bouillard au micro d'Oliver Pieper.
Das Worst-Case-Szenario, wenn es noch weiter sinken würde, dann hätten wir...
Le pire scénario serait qu'avec la baisse continue du taux de natalité, nous soyons confrontés à des problèmes encore plus graves à long terme en matière d'assurance sociale en 2030. Cela coûterait très cher en termes de prospérité, les cotisations sociales devraient être augmentées, les retraites seraient moins élevées et il faudrait également faire d'autres concessions dans le système de santé et les soins.
Autre donne qui pourrait avoir des impacts sur le taux de natalité, la réforme de l'État-providence. Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, il n'est plus finançable en raison des performances économiques. Depuis quelques semaines, conservateurs et sociaux-démocrates au pouvoir ne s'entendent pas sur la réforme. Une commission doit rendre un rapport avant la fin de l'année. Vous écoutez toujours le magazine Vue d'Allemagne, place à présent à la seconde partie. En l'espace d'une décennie, le Chili est devenu l'un des principaux pays récepteurs de migrants en Amérique latine. Les Vénézuéliens notamment, qui abandonnent massivement leur patrie, prennent la direction du pays andin. Ces cinq dernières années, leur nombre a augmenté de plus de 100%. Ils sont désormais la communauté la plus importante chez les étrangers au Chili. Mais ils doivent faire face à un climat de plus en plus hostile à leur égard. Ils se retrouvent aussi bien seuls alors que les relations diplomatiques entre Santiago et Caracas sont au plus bas. Dans la capitale chilienne, c'est le reportage de notre correspondante Naila Terouane.
Dans un grand immeuble du centre de Santiago, Yemedi et son époux Luis vivent dans un petit appartement. Tous les deux sont vénézuéliens.
Pourquoi salimos de Venezuela?
On a quitté le Venezuela car on voulait que nos conditions de vie s'améliorent.
Les salaires étaient très bas. Il y avait une grande différence entre ce qu'on gagnait et ce qu'on pouvait acheter. On ne s'en sortait pas.
Yemedi est arrivée à Santiago en 2022 après avoir passé la frontière clandestinement. Elle espérait renouveler son passeport auprès du consulat vénézuélien pour ensuite obtenir un titre de séjour. Mais les relations se sont fortement dégradées entre Caracas et Santiago, le président chilien n'ayant pas reconnu les résultats de l'élection présidentielle très contestée au Venezuela et qui reconduisait Nicolas Maduro à la tête du pays. En représailles, le consulat vénézuélien au Chili a fermé ses portes et les espoirs de Yemedi pour régulariser sa situation se sont envolés.
Mucha tristeza, mucha frustración.
Ça me rend triste, ça me frustre et ça me déprime. Si j'avais des papiers, je pourrais aller voir ma famille dans mon pays. Mais là, si je sors du Chili, je ne pourrais pas revenir.
Et comme ils ne peuvent pas avoir de titre de séjour, Yemedi et Luis ne peuvent pas non plus ouvrir de compte bancaire. Tout devient plus compliqué, même leur rêve de fonder une famille.
Si nous avons cette difficulté...
Si nous-mêmes faisons face à des difficultés, qu'en sera-t-il avec un enfant ?
Aux obstacles administratifs s'ajoute aussi un climat de plus en plus hostile envers la communauté vénézuélienne. Marie Montesinos a quitté le Venezuela il y a 23 ans pour s'installer au Chili. Elle dirige aujourd'hui l'ONG Tepuy qui aide à l'intégration des personnes migrantes.
Au sein de grandes communautés, il se peut qu'il y ait du microtrafic et de la délinquance. Car les délinquants en profitent pour se fondre dans la masse, ils se camouflent d'une certaine manière. C'est ainsi que la bande criminelle vénézuélienne Tren de Aragua s'est installée au Chili. Elle a profité du fait que la population vénézuélienne irrégulière y est relativement importante.
Aujourd'hui, l'amalgame est souvent vite fait entre Vénézuéliens et délinquance ou crimes organisés. Selon une enquête réalisée en 2024, plus de 60% des Chiliens associent la migration à l'insécurité, ce que déplore Yemedi.
On n'est pas tous des délinquants, mais on nous met tous dans le même sac.
Lamentablemente, pagamos todos por pecadores.
Alors, comme beaucoup de Vénézuéliens vivant au Chili, Yemedi et son époux, Luis, ont adopté des techniques pour ne pas se faire remarquer dans l'espace public, de peur d'être pris à partie. Par exemple, ils évitent de parler dans le métro pour que leur nationalité ne soit pas identifiée. Patricia Rojas parle d'un phénomène de mimétisme. Elle-même vénézuélienne, elle habite à Santiago depuis 14 ans et préside aujourd'hui l'association vénézuélienne au Chili.
On observe que les Vénézuéliens essaient de gommer leur accent. Ils s'assimulent pour éviter des situations de discrimination, voire de xénophobie.
Et ce phénomène n'est pas nouveau au Chili, poursuit-elle.
Je me souviens qu'en 2012, il y avait une perception extrêmement négative et discriminatoire envers les Péruviens. Puis ça s'est déplacé vers les personnes de nationalité dominicaine, ensuite aux Colombiens, aux Haïtiens qui sont arrivés. Aujourd'hui, ça touche la migration vénézuélienne. Et ces discriminations peuvent même être renforcées en fonction de la couleur de peau ou bien du niveau socio-économique des personnes migrantes.
Selon Marie Montesinos, qui habite au Chili depuis 23 ans, les médias participent également à cette xénophobie ambiante.
Certains médias ont incorporé la xénophobie dans leur ligne éditoriale. Ils se focalisent sur les crimes commis par des étrangers et ils se focalisent surtout sur la nationalité du criminel. Mais quand il s'agit d'un Chilien, par exemple, la nationalité n'est pas mentionnée. Donc quand on commence à comparer, on se rend compte qu'il y a un certain intérêt à présenter les personnes migrantes comme des délinquants, comme s'ils voulaient associer une nationalité à des pratiques délictuelles.
Une ambiance qui use le moral des migrants vénézuéliens, poursuit Patricia, présidente de l'association vénézuélienne au Chili.
Les personnes de nationalité vénézuélienne sentimos un agotamiento.
Nous, les Vénézuéliens, on est fatigués de cette surexposition médiatique, de ces discours discriminatoires de haine et de xénophobie. Parfois, je discute avec des compatriotes et ils me disent qu'ils évitent d'aller sur les réseaux sociaux pour ne pas être trop exposés à des contenus malveillants.
Quant à Yemedi et Luis, si leur situation ne s'arrange pas d'ici la fin de l'année, ils prévoient déjà de tenter leur chance ailleurs, en Uruguay ou en Argentine, après être déjà passés par la Colombie, le Pérou, puis le Chili. Naïla Drouané à Santiago pour la Deutsche Welle.
C'est la fin de cette édition de Vue d'Allemagne. À écouter et réécouter sur le site internet, les réseaux sociaux et sur la plateforme de podcast de votre choix. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Letouzé à ce micro. Alles Gute, tschüss.